Bonjour à tous, vous écoutez le Mac de Clapas 93.5 à Montpellier. Actualité, sujets de société, politique, culture et patrimoine, nous vous informons chaque semaine sur les rendez-vous locaux à ne pas manquer. Au programme aujourd'hui, un tramway nommé Startup. La troisième édition de l'événement, c'est le 27 novembre prochain. Un moyen inédit pour rencontrer des entrepreneurs et proposer ses idées. La 30e quinzaine des solidarités internationales a commencé. Jusqu'au 29 novembre, des manifestations variées et gratuites seront proposées au grand public. Nous avons aussi rencontré les compagnons de Maguelone. Ils fêtent leurs 50 ans et c'est l'occasion de faire un point sur l'actualité et leurs actions. La menuiserie collaborative de Montpellier nous ouvre ses portes. Pour leur deuxième anniversaire, des ateliers Do It Yourself autour de l'artisanat seront proposés dès ce week-end. Nous ferons aussi un détour par la musique locale. À Gignac, la 15e édition des 34 tours sera à écouter. Venez découvrir la jeune scène musicale héroltaise. Et enfin, nous partirons au musée Fabre de Montpellier découvrir la nouvelle exposition temporaire de marbre blanc et de couleur. C'est la troisième édition d'un tramway nommé Startup. Le concept est simple, des entrepreneurs retrouvent des professionnels et présentent leurs projets dans un tramway. Pierre Alzingre, organisateur de l'événement, nous donne des précisions au micro de Thomas Porcher.
Les retombées désormais, c'est déjà un effet de communication très important qui vise à démontrer à tout porteur de projet ou à tout jeune entrepreneur de Montpellier qu'il existe des structures d'accompagnement qui savent travailler entre elles et qui apportent des nouveaux outils et des nouvelles méthodes pour entreprendre. Les résultats maintenant très pragmatiques, c'est plus de 107 créateurs d'entreprises, c'était 107 créateurs d'entreprises l'an dernier qui sont venus dans le tramway, donc plus d'un tiers en provenance des quartiers prioritaires grâce à notre partenaire majeur Pôle emploi et qui permet à beaucoup de porteurs de projets qui ne choisissent pas l'accompagnement par peur, par crainte, par aussi bien souvent le fait de dire j'ai pas besoin d'accompagnement, d'y goûter un peu dans le tramway le matin, de continuer l'après-midi et ensuite d'être connecté et d'être accompagné par des structures du territoire.
Donc c'est une réussite puisque en plus des chiffres que vous nous avez donnés, ça a été repris dans plusieurs villes, c'est donc pour vous une réussite.
Alors pour l'instant c'est pas encore repris, il y a deux grandes métropoles qui veulent le reprendre. Nous on y va vraiment très doucement là-dessus parce que vous savez l'avantage à Montpellier, métropole, c'est qu'on a une faculté à travailler ensemble qui est assez unique. Ça veut dire qu'on est en capacité à une dizaine de personnes de fédérer beaucoup de moyens pour arriver à beaucoup de résultats. Donc je ne sais pas si dans d'autres métropoles on est capable de faire la même chose, certainement, je veux bien le croire, mais le plus important c'est d'abord de le vérifier avant. Donc il y aura deux délégations de métropoles qui viendront, on va voir un peu, on va leur faire goûter et puis elles verront si elles sont en capacité de l'organiser.
Le faire dans un tram, faire des entretiens d'embauche dans un tram, c'est pas habituel. Qu'est-ce que ça apporte vraiment de le faire dans un tramway ?
Alors, on l'a vu depuis deux éditions, et c'est pour ça qu'on le refait aussi, c'est que quand vous savez que vous avez un quart d'heure avec une personne dans un tramway, vous vous livrez immédiatement. Vous savez, l'accompagné et l'accompagnant, c'est un jeu quelquefois qui peut prendre du temps, parce que l'accompagné hésite à donner son idée, hésite à poser une question, il veut se sentir en sécurité. Là, on leur dit simplement, écoutez, vous avez un quart d'heure. On ne va pas vous demander de signer un accompagnement derrière ou de faire quoi que ce soit, c'est gratuit. Nous, simplement, vous venez, vous posez une question et vous partez. Donc je vous assure que quand ils savent qui est en face d'eux, et il y a de très belles personnes. L'année dernière, on avait plus de 70 coachs, et 70 coachs, c'était les startups majeures et les entreprises majeures, et notamment celles qui avaient signé la charte entreprise et quartier, qui étaient présentes dans le tramway. Donc je ne peux pas toutes les citer, parce que je ne voudrais pas en oublier une seule, mais quand vous avez ces 70 entrepreneurs, coachs, accompagnants en face de vous, vous n'avez qu'une envie, c'est profiter le plus rapidement possible de leur capacité de conseil.
Il y a donc 70 entrepreneurs, comment les avez-vous choisis ? Comment avez-vous choisi ces entreprises qui vont faire partie des coachs qui vont aider les startups ?
Un appel à des gens, on les connaît beaucoup et c'est vrai que je vous parlais d'une dizaine de partenaires majeurs, organisateurs. On a l'habitude de travailler, vous savez, avec des valeurs qui nous sont proches. Ces valeurs, c'est celle de la solidarité, c'est celle du partage, mais c'est celle également de la performance parce que c'est ça l'entreprise. Partage, progrès et performance qui permet finalement de sélectionner des coachs qui se présentent eux-mêmes et qu'on valorise également énormément sur nos réseaux sociaux.
Vous avez dit qu'il y avait deux allers-retours lors de cette journée. Pourquoi simplement deux ? Pourquoi ne pas faire une journée complète, banalisée, que les entrepreneurs puissent montrer leur projet ?
On a fait 407 rendez-vous dans le tramway l'année dernière en deux rendez-vous, en deux allers-retours. C'est déjà très important. Nous, ce que l'on veut derrière, c'est qu'ils aillent un peu plus loin. C'est, vous savez, on pourrait continuer une journée, deux journées, trois journées à faire des entretiens d'un quart d'heure, mais à un moment, chacun reste sur sa faim. Vous avez un accompagné qui dit « mais j'aimerais bien en savoir un peu plus », et vous avez un accompagnant qui nous dit, 10 fois, qui nous dit « mais moi, j'aimerais en faire un peu plus pour eux ». Donc c'est pour ça qu'on les invite, ils partent de la Mausson, on s'arrête à l'arrêt Léon Blum et on vient à l'hôtel de la métropole Salpeloutier pour commencer là aussi avec la durée que l'on veut. Mais on peut commencer à 11h du matin et terminer jusqu'à 17h. Vous voyez ?
Vraiment, pourquoi ne pas juste faire vraiment une journée pour aider le plus de startups possible ? Qu'est-ce que vous avez quand même énormément de personnes depuis 3 éditions ?
Tout à fait. Dans les 3 éditions, nous avons quelques startups qui viennent pour demander des conseils, mais nous avons surtout des entreprises de tous les secteurs d'activité. Du tourisme et même de piliers économiques du territoire, du tourisme, du nautisme, de la restauration. Vraiment, ce tramway nommé Startup, c'est un tramway dans lequel tous les accompagnants ont l'habitude d'être aux côtés de ceux qui innovent et ceux qui performent le plus, mais c'est tous les porteurs de projets de tous les secteurs d'activité et de toutes ambitions de toute nature qui y sont les bienvenus. Donc, une journée entière, on pourrait le faire et le répéter, mais à un moment, il faut aller un peu plus loin, il faut passer un peu plus de temps. Et ça demande un cadre un peu plus, on va dire, un peu plus sécurisé, un peu plus tranquille qu'un tramway. Le tramway est là pour donner envie d'une façon éphémère. Vous savez, un peu comme les pop-up stores aujourd'hui qui sont dans la distribution. Et puis, on va un peu plus loin, un peu plus loin derrière.
Comment peuvent faire les jeunes entrepreneurs pour porter leur projet ? Comment peuvent-ils s'inscrire ?
Alors, ils s'inscrivent en venant sur la plateforme www.1-tramway-nommé-startup, un tramway nommé startup.fr. Et là, ils auront, on va dire, tout le mode dans la totalité du mode d'emploi pour s'inscrire comme porteur de projet ou comme participant au concours UTNS.
Quel est donc ce concours d'ailleurs ? Il y a des prix qui seront décernés juste après ?
Oui, on lance un appel à projet à des entreprises engagées du territoire ou des porteurs de projets engagés. Et pour cela, on s'associe avec les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies qui nous donnent un cap à atteindre tous ensemble d'ici 2030. Nous, on cherche à orienter les porteurs de projets à ce qu'ils se fixent 3 de ces objectifs. Et bien souvent, ils l'atteignent assez facilement quand on est engagé. Et une sélection de 5 porteurs de projets aura lieu le 15 novembre. Et une ouverture au vote du public jusqu'au 27. Et puis là, un jury final. Et là aussi, on va accompagner des porteurs de projets avec une plateforme en ligne pour performer et pour développer encore plus leurs projets en une semaine.
Un tramway nommé Startup, c'est le 27 novembre prochain à Montpellier. Embarquez à 10h15 à l'arrêt Mausson pour proposer vos idées. Toutes les informations sont à consulter sur le site untramwaynommestartup.fr. La 30e quinzaine des solidarités internationales se déroule jusqu'au 29 novembre prochain. La Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale propose des activités variées. Ateliers, conférences, concerts et débats sont ouverts à tous. On écoute Nadine Huette-Anouin, présidente de l'association, au micro d'Ovia Lachumanasamy.
La Maison des Tiers-Mondes existe depuis 30 ans, puisqu'on est dans l'année anniversaire des 30 ans. C'est un collectif d'une trentaine d'associations, c'est variable d'une année sur l'autre, mais qui ont tout un rapport avec la solidarité internationale. Et la quinzaine des Tiers-Mondes, c'est notre point fort de l'année, puisque non seulement on fait notre propre quinzaine, que l'on fait depuis 30 ans, mais on représente aussi le Festisol, qui lui a lieu dans toute la France, dans la même période, avec plus de 4500 animations qui vont avoir lieu dans toute la France.
Quel est le but de ce festival ?
Alors le but de ce festival, c'est de faire de la sensibilisation à la solidarité internationale. Chaque année, on choisit un thème. Cette année, c'est « Quel monde voulons-nous ? Faire tomber les murs, lancer des ponts ». Et en fait, ce sont les murs physiques, bien sûr, mais ce sont les murs sociaux, les murs moraux, tous ceux qui se trouvent qui nous empêchent d'agir comme on le souhaiterait.
Alors aujourd'hui, ça fait 30 ans que vous existez. Vous avez déjà un collectif de 29 associations. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces associations ?
Alors des associations, il y a des associations de tous ordres. Il y a des grandes associations, comme admettons le Secours Populaire, le Secours Catholique, le CCFD, l'UNICEF, qui sont connues de tout le monde. Après, il y a des associations qui sont plus spécialisées, admettons dans l'aide à l'Afrique. Il y a des associations qui sont plus tournées vers l'Asie, comme Enfants du Mékong et Pour un sourire d'enfant, qui s'occupe d'éducation pour essayer d'amener les enfants de ces pays à avoir non seulement une éducation, mais aussi un travail par la suite. Vous pouvez sur les plaquettes et sur notre site mtmsi.fr avoir des, des renseignements sur toutes nos associations.
Pour revenir au festival, quels seront les événements phares de cette quinzaine?
Alors les événements phares, ben, c'est déjà le lancement, vendredi, Place de la Comédie, où on a des chapiteaux avec nos associations qui à la fois vendent de l'artisanat, mais également répondent au public, peuvent donner aussi envie de s'engager, parce que c'est très important. On a l'aide de beaucoup d'artistes montpelliérains qui viennent bénévolement, ça je le précise, et qui vont apporter un petit peu d'entrain et puis de joie, parce que c'est pas parce qu'on travaille dans des associations qu'on est forcément triste et morose, c'est pas du tout le but. C'est essayer de trouver un sens à ce qui se fait et apporter un petit peu d'espoir dans cette période où malheureusement on ne voit que ce qui va pas, alors qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont.
On a également un jeune qui est en service civique chez vous.
Bonjour, moi c'est Paul Sioux, je suis le service civique de la Maison des Tiers-Monde et de la Solidarité Internationale. Moi, mon rôle à la MTMSI et lors de cette quinzaine, ça va être de rameuter des jeunes pour avoir une prison jeune et afin que la jeunesse puisse s'investir dans la solidarité internationale. Au sein de la MTMSI, on est en train de créer un pôle jeune. Et avec l'aide des étudiants de la Montpellier Business School et de certains unicités, on va pouvoir faire quelques actions durant la quinzaine sur la sensibilisation aux objectifs de développement durable.
Selon vous, quel est le rôle des jeunes justement dans la solidarité internationale aujourd'hui ?
Le rôle des jeunes est très important parce que c'est nous qui on va devoir prendre la suite au final. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on s'intègre à la solidarité internationale, qu'on s'y intéresse le plus petit possible, je pense, pour perpétuer le mouvement de cette solidarité internationale.
Pour les auditeurs, je vous invite tous à venir à une de ces soirées. Ceux qui n'ont pas vu les programmes, vous pouvez le consulter sur notre site mtmsi.fr et sur Facebook aussi. Toutes les soirées, je précise, sont gratuites, sauf celles qui ont lieu dans des cinémas de la ville, comme le Diagonal ou Utopia, où là, il y a une petite participation, mais sans ça, c'est entièrement gratuit. Autant dire que pour nous, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'engagement personnel, et notre récompense, c'est de voir un public attentif et surtout donner envie à plein de personnes de s'engager, parce qu'on peut s'engager pour un jour, pour 8 jours, pour 6 mois, mais beaucoup plus. Les associations ont besoin d'aide, elles sont toutes en manque de bénévoles. Le bénévolat, c'est quelque chose qui apporte, qui bien sûr est une contrainte, mais ça apporte beaucoup de joie aussi.
La 30e quinzaine des solidarités internationales, c'est jusqu'au 29 novembre à Montpellier. Retrouvez l'intégralité du programme sur le site de la Maison des Tiers-Mondes, mtmsi.fr. Un demi-siècle d'entraide, de solidarité et de compagnonnage. C'est sur ces fondements que reposent les Compagnons de Maguelone. Depuis sa création, il y a 50 ans, l'association accompagne au quotidien une centaine de personnes en situation de handicap. Initialement basée sur la presqu'île de Maguelone, les Compagnons se lancent désormais un nouveau défi en réhabilitant le domaine du Grand Puy. Un projet à vocation multiple dont nous parle son président, Bernard Azéma, au micro de Nora Kawas.
Tout à fait, économie sociale et solidaire, et ça nous va très bien. Et puis, réhabilitation et respect du patrimoine, c'est ce que nous avons essayé de faire au domaine du Grand Puy, que nous avons acheté à la mairie de Montpellier il y a 2 ans, on a signé il y a 2 ans, et qui était complètement dévasté par plusieurs incendies. Et nous avons totalement réhabilité les bâtiments, reconstruits, restaurés, pour y déployer des activités de passerelle vers l'emploi, de mise au travail de personnes en situation de handicap. Voilà, ça fait partie du job de l'association et c'est ce que nous essayons de nous employer à faire.
Sur quelle durée ces personnes sont-elles embauchées, entre guillemets, chez vous ?
Ce sont des contrats à durée indéterminée, hein, les personnes qui travaillent. Alors, le domaine du Grand Puy, c'est ce qu'on appelle une entreprise adaptée, qui est différente de choses que les gens connaissent peut-être mieux, qui s'appellent avant les CAT, les centres d'aide par le travail, puis actuellement les ESAT, c'est-à-dire établissement de services d'aide par le travail. Donc là, ces deux types d'établissements bénéficient d'une aide importante d'État, enfin des garanties, etc. Donc c'est une activité fortement administrée. Ce que nous avons créé, c'est deux entreprises adaptées. Là, on est carrément, le mot est important, dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il s'agit de déployer une vraie activité économique avec une vraie rentabilité, avec des personnes justement en situation de handicap, avec des aides qui sont assez restreintes, même si elles existent, de l'État par l'intermédiaire de la directe.
Quelles seront les activités sur le domaine du Grand Puy ?
Nous avons eu la chance de pouvoir attirer et recruter un chef excellent, qui est en fait, je vais le citer parce que sa cuisine mérite d'être signée. Il s'agit de Christophe Charadin, qui était le patron cuisinier d'avant du restaurant L'Estrade à Palavas-les-Flots, sur le front de mer. Donc là, on y déploie une activité de restauration bistronomique qu'on a qualifiée méditerranéenne. C'est une cuisine du jour, en circuit très court, avec d'ailleurs les propres produits que nous cultivons dans l'autre entreprise adaptée de maraîchage. Donc première activité, la restauration. Deuxième activité, la location de salles et d'espaces pour divers usages, des séminaires, des événements privés, professionnels, des formations, etc. Et le tout, je dirais, pimenté, agrémenté d'activités culturelles que nous souhaitons mettre en place, des expositions, des animations musicales, etc.
Vous êtes sur un parc unique, hein, entouré d'un agri-parc de 17 hectares, véritable écrin de nature. Donc effectivement, vous y développerez certainement d'autres projets dans l'avenir.
Absolument. Là, en partenariat avec la mairie de Montpellier, qui souhaite mettre à notre disposition presque 2 hectares, enfin, ça restera à définir, dans le domaine dans l'agri-parc du Masnouguet, nous allons y déployer une activité de maraîchage en permaculture, en agroforesterie, qui aura aussi une fonction de pédagogique, de démonstration, de présentation aux enfants, aux écoles, aux quartiers, etc. Donc une permaculture de démonstration, on va dire, montrer ce qu'on peut faire en matière de permaculture, de production hyper bio. Voilà, et ces produits, nous en produisons déjà à Latte-Morin, on a loué 6 hectares de terre agricole en bio. Donc on fait déjà du maraîchage bio demain avec des parcelles de permaculture. Donc ces produits sont cuisinés dans nos restaurants, puisqu'on a le restaurant du Grand Puy, mais on a aussi le restaurant à Maglode même qui s'appelle le Comptoir des Compagnons. Et puis aussi, on a la cuisine centrale qui donne à manger à tous les compagnons, les travailleurs, etc. Donc on a finalement 3 restaurants en activité qui travaillent et cuisinent nos produits, plus d'autres lieux, puisque nous vendons nos légumes dans différents endroits.
Je voudrais savoir, on a parlé de la dimension sociale des compagnons de Maglone, un petit peu moins de la dimension patrimoniale et culturelle.
Alors patrimoniale, c'est simple et à la fois extraordinaire. Puisque nous avons en responsabilité, par bail emphytéotique, d'un domaine qui appartient à l'évêché, que nous avons donc en gestion par bail emphytéotique. Et ce domaine, c'est rien moins qu'une île magnifique de 30 hectares sur laquelle est plantée la cathédrale de Maglone. Maglone, c'est un lieu plurimillénaire, un haut lieu de l'histoire languedocienne. Et donc on a en responsabilité d'une part ce bâti exceptionnel et d'autre part aussi un environnement naturel exceptionnel avec des étangs, des lagunes, des oiseaux migrateurs, etc. Enfin, plein d'espèces protégées. Donc il y a un patrimoine à la fois naturel et bâti que nous avons en responsabilité. Ça c'est l'aspect patrimonial. L'autre aspect qui est totalement lié aussi, c'est la dimension culturelle, c'est-à-dire ce lieu. Nous le rendons accessible à la population depuis toujours, de manière encore gratuite, il faut bien le dire, et de manière ouverte, 365 jours par an. On cherche les bâtiments, enfin les monuments historiques qui sont ouverts toute l'année et gratuitement. Donc c'est le cas, et grâce aux compagnons de Maglone, puisque c'est nous qui permettons cet accès au public et qui essayons de garantir cette accessibilité facilitée aux personnes. Voilà. Donc pour la culture, je voudrais rajouter, donc en fait, ces lieux-là qui sont extraordinaires, il faut aussi les faire vivre et partager avec les visiteurs des beaux moments d'émotion. C'est pour ça qu'il se tient un festival qui a 36 ans d'existence, qui s'appelle le Festival de musique à Maglone, qu'anime Philippe Leclan. Mais nous-mêmes avons lancé il y a 11 ans le festival autour du chant choral, de la musique vocale, qui s'appelle Les Voix de Maguelone, qui en est à sa 11e année d'existence, et nous sommes très fiers, puisque ce festival, nous le faisons sans aucune subvention, je dirais à main nue, sur la seule énergie de notre bénévolat et la confiance des musiciens.
Cette année, vous allez faire justement un premier concert de Noël. Vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, alors on est très contents parce que, en fait, au début, quand on a lancé ce festival, il était assez ramassé sur quelques week-ends. Et puis les gens nous disaient, mais on est tellement bien, etc. On aimerait pouvoir revenir régulièrement. Écouter des concerts. Et donc, j'ai au fur et à mesure un peu étalé les programmations. Et puis, on nous demandait aussi pourquoi n'y a-t-il pas de concerts de Noël. Et donc, cette année, pour la première fois, on a sauté le pas. Et il va se tenir donc le dimanche 15 décembre à 17h, le premier concert de Noël avec l'ensemble Symphonia, à la Symphonia pour les musiciens, qui sont les musiciens du conservatoire, et le chœur symphonique de Montpellier, donc une phalange très très belle, musicale, qui vont donner trois monuments de la musique avec le Magnificat de Bach, le Te Deum de Haydn. Voilà. Et je recommande à vos auditeurs, s'ils sont intéressés, d'aller sur notre site pour acheter leur billet à l'avance, parce que je pense, je crains et j'espère, mais c'est plus un espoir, c'est peut-être une certitude, qu'il va y avoir beaucoup de monde, donc il est recommandé d'acheter son billet à l'avance.
Les gens ont entendu parler de l'activité conchylicole des Compagnons de Maguelone, qui a été suspendue donc en 2019 par arrêté du préfet de l'Hérault sur la foi d'analyse négative réalisée par l'Ifremer, dans les temps du prévôt à Palavas-les-Flots. Pouvez-vous nous dire qu'en est-il des investigations diligentées, de ce rude coût économique porté à la gestion de l'association et de la possible implication de rejet de la station d'épuration?
Je ne sais pas si je répondrai à toutes vos questions, parce qu'il y a des questions qui se géreront devant des instances plus officielles. C'est effectivement un rude coup, puisque la conchyliculture fait partie à la fois de l'image et de l'activité économique depuis 1976. Des Compagnons de Maguelone. On venait de Montpellier acheter les huîtres des Compagnons. Ma famille elle-même, moi-même, quand j'étais jeune, enfin, je connaissais les Compagnons par les huîtres et aussi les crevettes qui y étaient élevées à l'époque. Donc il y a quelque part, avec cette fermeture, un grave préjudice d'image qui a été porté. Il se trouve que l'étang est itérativement pollué par des bactéries exogènes. Nous avons une forte suspicion de savoir quelle en est l'origine principale. Et nous avons fait, comment dirais-je, une contribution importante lors de l'enquête publique sur la rénovation de la station de Maïra, qui n'est pas une véritable rénovation, simplement une augmentation de capacité, dont nous pensons qu'elle ne réglera en rien les problèmes, puisque en fait elle ne vise pas les crues de quelque importance. Elle ne fait sert qu'à éponger les pluies, sans parler d'épisodes cévenols. Je ne parle pas là d'épisodes cévenols. Nous avons découvert, et c'est de notoriété publique, et que la station Maïra rejette pratiquement tous les 10 jours des eaux non usées, non traitées dans le Lez, et nous suspectons fortement, dans la cause de ces pollutions bactériologiques, ces rejets. En tous les cas, nous attendons qu'on nous prouve le contraire.
Vous disiez que les analyses étaient assez bonnes, en tout cas. Vous êtes suspendu 2 ans, mais que vous avez bon espoir.
Oui, on a bon espoir. De toute manière, nous comptons sur l'État pour qu'il exerce son devoir de police, sur la police des eaux. Et en tous les cas, les faits sont les suivants. Depuis que nous avons été fermés, les analyses bactériologiques sont toutes très bonnes. Et donc, comme nous avons été fermés parce que c'est une question de statistique, c'est le nombre de résultats par an mauvais, au vu de ces bons résultats diligentés par les services publics, et qui sont excellents, nous ne comprendrons, si la chose perdure, nous ne comprendrons pas pourquoi nous ne serons pas réouverts. En tous les cas, la loi, théoriquement, y oblige. Donc il faut 18 mois, un an pour que, à nouveau, nous puissions être reclassés en B, comme l'est actuellement les temps de taux, ce que nous étions avant le déclassement.
Juste pour finir, on imagine que ce n'a pas été sans conséquence sur l'activité salariale et la psychologie des travailleurs handicapés.
Eh bien, ils ont été très mal et continuent encore. C'est-à-dire que, bon, vous savez, les personnes handicapées mentales, comme on dit, avec une déficience intellectuelle, il a fallu expliquer maintes et maintes fois. On a eu des authentiques décompensations psychologiques, puisque des gens qui travaillaient depuis 30 ans à la conchyliculture, c'est un métier très dur, vous savez. On travaille au froid, au vent, en hiver, c'est humide. Et moi, j'ai toujours été étonné de voir que ces travailleurs handicapés, à qui on proposait, puisqu'on a une palette d'offres professionnelles très variées, à qui on proposait de changer d'activité professionnelle chez nous, ne le faisaient pas parce qu'ils sont à la fois fiers et heureux de travailler à cette activité, et ils en tirent leur sentiment de dignité d'hommes et de femmes. Et effectivement, quand on a été fermé, qu'il a fallu annoncer solennellement les choses et expliquer qu'on était fermé, etc., le directeur a dû mettre en place une cellule d'accompagnement médico-psychologique dire et redire, et moi chaque fois qu'il me voit, il vient me demander alors quand est-ce qu'on ouvre, etc. Et il faut leur réexpliquer que c'est pas comme ça, etc. Donc ça a eu un impact très fort. Je voudrais peut-être dire une chose, là, parce que les huîtres et les moules sont contaminées parce que ce sont des organismes vivants qui accumulent les bactéries. Nous vendons du poisson à Maguelone. Ce poisson, nous le pêchons dans les mêmes étangs, mais ce poisson, c'est du poisson sauvage qui rentre par le gros, qui vient chasser, qui repart, etc. Et donc, il faut surtout prendre garde, ne pas confondre, ne pas penser que le poisson de l'étang du Prévost, à l'instar des huîtres et moules, est contaminé. Il n'en est rien. Ce poisson, il vient de la haute mer et il repart vers la haute mer. Les pêcheurs le savent bien, les dorades entrent et sortent, etc. Donc, voilà. Donc, surtout, ne continuez à acheter nos poissons à défaut de pouvoir acheter nos huîtres.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association des Compagnons de Maguelone, on vous invite à consulter leur site compagnonsdemaguelone.org. On vous rappelle qu'un concert de Noël se tiendra au sein de la cathédrale de Maguelone le dimanche 15 décembre à 17h. La menuiserie collaborative à Montpellier nous présente son concept hors du commun. Professionnels et particuliers se réunissent pour travailler le bois sous toutes ses formes. Cette année, des ateliers inédits sont proposés autour de l'artisanat et du do-it-yourself. Nous avons rencontré Olivia Liès, co-gérante de la menuiserie.
Alors actuellement, nous sommes deux salariés co-gérants. Donc il y a aussi Johan Laperoni, qui a un profil d'ébéniste, qui a eu ses DMA en ébénisterie. Après, on travaille aussi avec beaucoup de menuisiers, qui ont leur propre activité à la menuiserie collaborative, et dont certains aussi soutiennent le projet en s'impliquant bénévolement.
Et la menuiserie collaborative a ouvert il y a maintenant 2 ans, pratiquement. Expliquez-nous un peu l'origine du projet. Comment vous est venue l'idée ?
Alors en fait, l'objectif du projet, c'était de répondre à un besoin des artisans. Parce qu'en fait, quand un artisan menuisier veut s'installer, ça demande des gros frais, des gros investissements en termes d'équipement. À Montpellier, du coup, aussi en termes d'espace pour pouvoir entreposer les équipements. Donc c'était vraiment pour répondre à cette problématique. Et aussi avec le souhait pour les particuliers de leur donner accès à un espace où ils pourraient travailler en sécurité, et dédié à ça, comme ça fait moins de poussière dans les appartements. Et il y avait aussi l'idée de pouvoir réunir dans un lieu un petit peu les personnes du secteur du bois. Et pas que du bois, de la construction, de la fabrication, de la création. Comme par exemple réunir en un lieu des designers, des architectes, des menuisiers, artisans, voilà.
Et est-ce que vous avez des partenaires avec qui vous travaillez spécifiquement ?
Oui, il y a un environnement partenarial très riche, en fait, parce qu'on va travailler autant avec des fournisseurs de machines, Sudaffutage Cadieux. On est aussi en partenariat avec les Compagnons du Devoir, donc c'est pour tout ce qui est domaine de la formation et formation professionnelle. On travaille en partenariat également avec le CETEF, donc là c'est une association de propriétaires forestiers privés, en fait, qui se sont réunis pour valoriser leur bois, et puis ici ils ont vu l'intérêt de pouvoir valoriser les bois locaux. On a différents fournisseurs de bois aussi dans la région avec lesquels on travaille. Au niveau institutionnel aussi, on travaille avec l'Union régionale des SCOP, étant nous-mêmes une société coopérative. On est aussi accompagné par la pépinière Réalis à Montpellier, donc la pépinière de l'économie sociale et solidaire.
Parlez-nous un peu des espaces mis à disposition pour les particuliers et les professionnels. Comment ça s'organise l'atelier ?
Alors c'est un atelier qui est commun pour tous, autant les pros que les particuliers. Seulement c'est au niveau des horaires, des plages d'ouverture où ça diffère. Donc les professionnels, ils vont pouvoir venir sur toute l'amplitude d'ouverture, mais on va leur réserver les espaces en semaine du lundi au vendredi. Et les particuliers vont pouvoir, eux, être prioritaires sur les mardis et jeudis soirs et le samedi. Et le vendredi, on fait une journée mixte pro-particulier.
Vous avez beaucoup de personnes qui viennent à la menuiserie, particuliers ou pro ?
Alors, depuis l'ouverture, on a eu plus de 300 utilisateurs. Donc, il y a des personnes comme des professionnels qui viennent vraiment en résidence, donc dont c'est l'atelier principal et qui sont là tous les jours. D'autres personnes qui viennent seulement pour un atelier thématique, une formation. Voilà. Donc, en fait, les utilisations sont très variées.
Et par exemple, si un particulier veut... construire un meuble ou un objet. Comment est-ce qu'il fait ? Quelles sont les étapes, les choses à faire pour vous contacter ?
Alors nous, on propose des accompagnements et des coachings. Donc déjà, le prérequis pour venir travailler à la menuiserie collaborative, c'est de suivre la formation d'entrée. Ça permet de saisir vraiment tout le fonctionnement du lieu, les règles de sécurité générale, ainsi que tous les équipements disponibles. Ensuite, pour le particulier qui est débutant et qui veut justement se lancer, on va lui proposer, s'il a un plan précis, un projet précis en tête, ou un coaching individuel de 3 heures, ou alors de rejoindre un groupe collectif. Donc en fait, c'est un cours collectif pour apprendre les étapes en fait, de conception d'un projet. À l'issue, normalement, de ce coaching, la personne sait si elle doit être formée à l'utilisation de telle ou telle machine. Elle sait exactement tous les matériaux dont elle va avoir besoin et puis avoir toutes les étapes de fabrication de son projet.
Vous accueillez un festival le 23 novembre prochain. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du programme ou de l'événement ?
Oui, et il se trouve que ça tombe aussi à l'occasion de notre anniversaire, nos 2 ans d'ouverture, pour lequel nous, on voulait vraiment mettre à l'honneur les acteurs du « do it yourself », c'est-à-dire tous les acteurs qui promouvoient le « faire soi-même ». Donc là, nous, au programme, on a prévu le samedi 23 novembre, à partir de 14h, de faire un petit salon avec des animations proposées par les divers acteurs. Par exemple, l'école de musique Fastlane, une école de son audio numérique, qui va proposer de la captation sonore et de la retransmission création sonore. On va avoir aussi l'épicerie bio et vrac Citizen Market, qui va aussi proposer des ateliers. Donc là, j'en dis pas plus sur le programme. On va aussi recevoir l'association Oasis Citadine pour promouvoir le maraîchage, faire soi-même son maraîchage, la permaculture. On va aussi recevoir l'atelier à la Bricole en centre-ville, donc eux aussi ils permettent de se réapproprier des savoir-faire et de refaire soi-même, de réparer et bricoler des choses sur tout un tas de domaines. Bien sûr, nous aussi, on animera un atelier autour du bois. Et voilà, on espère aussi recevoir le Ripper Café.
Vous êtes peut-être un peu excentré au niveau des transports. Comment ça va se traduire un petit peu en termes de visiteurs ?
Alors justement, ce qu'on a prévu, on a un grand parking, donc en voiture, le lieu est vraiment accessible. On est excentré, mais quand même, on a des transports en commun qui desservent la zone avec le bus numéro 11, Arémas Saint-Pierre, et le tramway aussi, ligne 4, l'arrêt restant, Garcia Lorca.
Est-ce que vous avez d'autres événements prévus après le festival ?
Oui, on souhaite proposer un marché des créateurs pour Noël, justement, mettre en avant les créateurs locaux, que ce soit voilà, dans le bois, dans le métal ou autre. Et en février, on va proposer le Festival du Bois. On avait déjà lancé un Festival du Bois en juin dernier, où on avait pu regrouper justement un peu toute la diversité des acteurs du bois. Donc on avait autant des charpentiers que des créateurs de bijoux, que des personnes qui affûtent ou qui créent des outils, qui fabriquent des outils manuels, des planches de surf. Voilà, c'était pour montrer un peu tout ce qui était possible de faire en bois. On a aussi, il y a une personne qui, le kitam, des instruments de musique.
Pour le 2e anniversaire de la menuiserie collaborative, des ateliers et rencontres sont organisés. Artisans ou bricoleurs du dimanche, rendez-vous le samedi 23 novembre à partir de 14h. La 15e édition du festival 34 Tours vous donne rendez-vous les 22 et 23 novembre. Installé cette année au Sonambule à Gignac, c'est l'occasion de découvrir la jeune scène musicale héroltaise. Guillaume Trébuchon, responsable du festival, nous présente l'événement et la programmation.
Alors 34 Tours, c'est 2 choses. Pour le public, c'est un petit festival qui a lieu au Sonambule, à Gignac, 20 minutes de Montpellier, rien d'inaccessible, c'est gratuit, c'est tout droit. Voilà, c'est un festival pour tous les publics, des concerts sur deux jours, les 22 et 23 novembre prochains. Et c'est aussi, tout au long de l'année, un dispositif d'accompagnement pour les groupes héraultés de musique actuelle, tout style, où on les fait travailler, où on accompagne le projet, où on essaie de travailler sur la structuration, et aussi sur scène avec un intervenant qui fait bosser les groupes sur leur projet.
Comment se passe la sélection des artistes ?
Pour sélectionner, bêtement, il faut candidater. Voilà. Donc il faut déposer un dossier qui expose le projet du groupe, ce qu'il a fait avant, sa diffusion, ses concerts, ses enregistrements, ses envies, ce sur quoi il pense devoir travailler, un autodiagnostic, c'est pas mal. Et puis on se sert de ça pour voir comment on peut travailler avec les groupes ou pas, est-ce que c'est le moment ou pas. Et puis on s'intéresse évidemment au projet artistique, c'est un peu le postulat de départ. Il faut que ça nous semble un peu correct, sachant que on est, je ne choisis pas tout seul les groupes. Il y a tous les partenaires du projet qui sont là, le Sonambule, la Cigalière à Sérignan, la Passerelle à Jacou, le Théâtre Albaret à Gange et les saisons du Léo-Larzac, saison Résurgence à l'Odeb, voilà, qui participe à ça. Isabelle Petit de Victoire 2 aussi, qui a été très longtemps partenaire du 34 Tours et aussi là pour la sélection. Donc à nous tous, on voit à peu près ce que font les groupes. Voilà, mon travail c'est de faire de la veille, d'aller voir des concerts, donc je suis ça d'assez près.
Vous accueillez aussi des artistes en résidence, si j'ai bien compris. Comment ça se passe ?
Alors, il y a deux types de résidences. Il y a les résidences 3 jours pour des projets qui sont plus ou moins, comment dire, structurés. Voilà, ça peut être soit le début d'un groupe pour faire un début d'accompagnement, soit au contraire un groupe qui est un peu avancé et du coup qui a besoin de 3 jours pour caler certaines choses sur le set, pour revoir son set, pour travailler un set avant de partir en tournée. Voilà, avec l'idée toujours d'avoir un regard extérieur sur la production. Un regard extérieur qui est empathique, mais qui est dénué de tout affect. Et après, il y a les résidences 6 jours qui se déroulent au Sonambule pour des projets qui nous semblent les plus avancés, les plus intéressants, ou peut-être où c'est le meilleur moment pour eux de travailler 6 jours. Souvent, c'est des sorties de premier album ou de premier EP. Voilà, c'est des instants de première visibilité publique où il faut que le projet soit bien calé sur scène, histoire de gagner un peu de temps et de visibilité aussi auprès des professionnels, puisque les copains diffuseurs de la région jettent toujours un œil sur ce qui se passe sur le dispositif et ça permet une petite mise en lumière, ce qui n'empêche pas au groupe de devoir travailler après leur diffusion, mais en tout cas, voilà, il y a une petite patte 34 tours, on est là depuis 15 ans, il y a des groupes intéressants qui sont sortis de ça et qui ont continué après, hein, c'est pas nous qui avons fait le truc, le boulot c'est eux qui le font, mais en tout cas, voilà, il y a une petite preuve, un petit gage de qualité là-dessus.
Il y a une spécificité cette année, hein, une grande thématique, par exemple, pour la 15e édition, ou non, pas spécialement ?
On n'a jamais eu d'esthétique privilégiée. C'est surtout la validation d'un projet. C'est vrai que les projets de jazz sont très souvent menés de manière très hétérogène. C'est des groupes qui se font, qui se défendent très vite. Donc là, on parle plutôt de musiciens. Donc c'est vrai que le jazz est un peu à part. Après, il n'empêche que c'est un projet jazz qui nous intéresse, on le prendra. Voilà, après, il n'y a pas d'esthétique privilégiée. Cette année, on a de la chanson française guitare-voix. On a une espèce de new soul très moderne, voilà, ce qu'on appelle benoîtement la pop urbaine aujourd'hui, avec El Nour. Voilà, donc le grand écart stylistique, il est là. Il est là chaque année, on ne fait pas exprès. On peut avoir des trucs très rock, on a eu les Fabulous Sheep, on a eu du métal. Donc voilà, il n'y a vraiment aucune prévalence esthétique.
Et cette année, c'est qui les artistes présents ?
Alors cette année, les deux artistes qui vont jouer la semaine prochaine au Sonambule à Gignac, c'est Clo et El Nour. Donc Clo, c'est un groupe de folk qui a un sens de la mélodie assez, assez magique. Voilà, un bonhomme qui compose presque sans le savoir des tubes incroyables. Voilà. C'est le propre des gens qui ont du talent, un peu comme Ollie Jenkins aussi qu'on a eu chez nous. Et puis on a El Nour, du coup, qui est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, c'est un peu de la musique d'ordinateur, très clairement. Mais voilà, c'est une espèce de trap, new soul. Enfin, c'est très influencé par George A. Smith ou IMDb, enfin, ce genre de truc. Et c'est une jeune fille totalement incroyable qui a ce truc un peu injuste chez les artistes, qui font qu'il y a ceux qui ont cette présence magnétique directe et ceux qui ne l'ont pas, elle est là, voilà, elle est très solaire et puis elle a des vrais morceaux super chouettes. C'est un bonheur de travailler avec elle, du coup. Donc c'est deux esthétiques très différentes, une fois de plus. Les deux, le seul truc, le seul point commun qu'on pourrait retirer de ces deux projets-là, c'est qu'ils ont un sens mélodique assez aigu. On écoute deux fois les morceaux, on les a dans la tête. Voilà. Après, voilà, sur une esthétique très folk-rock pour Clo et très trap-soul pour El Nour. Ouais, deux propositions assez différentes, du coup donc deux soirées différentes puisqu'on fait la programmation, ça c'est toujours un petit sport, c'est le set du dispositif, c'est de faire la programmation en fonction de l'esthétique des groupes qu'on accompagne. Donc on a choisi un groupe soul, on va travailler à hip-hop soul, donc là on a réussi à avoir les Puppet Mastaz, du coup un groupe de rap marionnettes, on ne peut pas le définir autrement. Et puis on a une soirée qui est la première, le 22, on a Ash Burns, qui est un bijou français. C'est un peu le Neil Young français, moins connu que Neil Young, mais c'est le Neil Young français. En tout cas, on a tenu le programme là, parce que c'est vraiment très très bien, puis ça correspondait esthétiquement. Et on finira la soirée le 22 avec Yarol, qui est le guitariste fondateur de FFF, et qui a aussi été le dernier directeur musical des tournées de Johnny Hallyday.
Donc la programmation, c'est plusieurs concerts qui vont suivre pendant ces deux jours.
C'est ça, c'est deux soirs de concerts où on met en lumière en fait les acteurs locaux, les artistes locaux, Elnour et Claude, qui ont bossé au Sonambule tout le mois de septembre pour préparer ce concert-là. Et on les insère dans une programmation. Voilà, c'est un vrai concert, c'est pas un truc au rabais, c'est un vrai concert. Et voilà, l'idée, c'est que le public qui vient voir Puppet Mastaz découvre évidemment Elnour. Nous, notre challenge, il est là, en tout cas.
Il y a un suivi des artistes après les 34 tours, une fois qu'ils sont passés?
Alors, c'est la vraie question, parce que c'est une question qu'on va poser souvent. Nous, on s'engage sur un an après ces groupes-là. Après, évidemment, moi, mon travail, c'est de suivre les projets musicaux du département. Vu qu'il y a une relation de travail qui a été engagée avec eux de manière beaucoup plus poussée, on est rentré dans le cadre des projets, je connais leurs objectifs sur un an et demi, deux ans. Évidemment qu'il y a un suivi qui se fait après. Ça ne se fait pas dans le cadre strict de 34 tours, ça se fait dans le cadre plus large de mon travail au quotidien. Voilà. Après, effectivement, les groupes, ce sont des aventures collectives. Il y a ceux qui s'engagent vraiment dans ce projet-là et qui un peu laissent leur travail de côté, ceux qui ont nécessité de travailler pour gagner leur vie. Donc, c'est très fluctuant, la vie de musicien. En tout cas, quoi qu'il arrive, il est très rare que je ne sois pas au courant des projets post-34 tours des groupes qu'on a accompagnés. Ah ben là, juste avant de venir, pour tout vous dire, j'ai Samuel Covel, avec qui j'ai bossé l'année dernière, m'a téléphoné. Donc voilà. Enfin, voilà, évidemment qu'on suit les projets. Moi, je vais les voir en concert. Ça fait partie du... Voilà, et puis très clairement, il y a une relation humaine aussi qui est créée. Au-delà du simple aspect professionnel, on a la chance de faire un métier qui revêt un aspect plaisir non négligeable, et c'est bien de s'en rappeler.
Le festival 34 Tours met en scène de jeunes artistes aux styles musicaux variés. Venez les découvrir les 22 et 23 novembre au Sonambule de Gignac. Pour consulter les tarifs et la programmation, rendez-vous sur le site du département de l'Hérault. Le musée Fabre de Montpellier présente sa nouvelle exposition de marbre blanc et de couleur. La rétrospective se déploie sur deux sites, le musée et la cathédrale Saint-Pierre. Elle propose une plongée dans l'histoire de Montpellier avec le décor de la chapelle des Idées. Pierre Stepanoff, conservateur du patrimoine au musée Fabre, nous détaille l'exposition.
En fait, le projet est né assez récemment, mais le sujet a une histoire assez complexe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir qu'on parle d'un sujet qui est totalement oublié, totalement méconnu, qui a totalement été effacé par l'histoire. Et au fil des années, ces 30 dernières années, on a pu redécouvrir des éléments, des connaissances sur cette chapelle qui est totalement effacée, mais dont il reste un certain nombre d'œuvres d'art qui sont des chefs-d'œuvre. En fait, la première publication sur ce sujet, c'est l'article d'Alain Chevalier en 1994 dans le journal du Metropolitan Museum de New York. Le musée Fabre a pu faire l'acquisition d'un certain nombre de sculptures issues de cette chapelle. En 1997, on a pu acheter le buste de la petite fille de Jean Dehydé. En 2000, le buste de son épouse. Et en 2017, le buste de Jean Dehydé lui-même qui était dans la chapelle. Donc il y avait vraiment une espèce de face-à-face entre Jean Dehydé et sa femme contre la paroi. On a pu reconstituer ce couple et c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu qu'il était vraiment temps de faire une grande exposition pour tenter de reconstituer ce décor et de le faire découvrir au public. Alors ça, c'est le petit miracle, c'est la magie de ce projet, c'est qu'au moment où le musée acquiert en fait ce buste, dans le même temps, la cathédrale est en chantier, on est en train de faire refaire l'éclairage de toute la cathédrale. Donc ça a été un an de chantier pour la direction des régionales des monuments historiques. Et à ce moment-là, au fil du chantier, on s'aperçoit qu'au-dessus de la chapelle des Idées, dont il ne reste rien à l'intérieur, et bien au-dessus de l'arc de cette chapelle, sous un badigeon épais, eh bien on voit apparaître des éléments, des indices qui laissent à croire qu'il existe une fresque baroque monumentale qui est encore sous l'enduit. Et donc, au moment où nous, on lance ce projet, eh bien, la Direction régionale des monuments historiques lance le projet de redécouvrir cette fresque, d'enlever le badigeon pour la remettre au jour, au grand jour. Et ça nous conduit aujourd'hui à ouvrir l'exposition au musée Fabre et à avoir la fresque qui est révélée pour la première fois au public dans la cathédrale. Donc c'est une espèce d'alignement des astres assez magique, à moins que ce soit la providence divine.
Vous êtes centré sur une seule famille. Quelle est sa place à Montpellier, les Dehydé, qui sont-ils ?
Alors cette famille, c'est une famille en fait originaire de Béziers, pour tout vous dire. Le grand-père de Jean Dehydé est un bitérois, c'est un bourgeois. Et son fils, Joseph, a l'occasion de faire des études de droit à Montpellier, il est docteur. et il arrive à rejoindre la Cour des comptes et des finances de Montpellier, qui est l'organisme en charge des finances royales dans toute l'Occitanie, dans toute l'actuelle Occitanie, dans tout le Languedoc. Et donc à cet égard, il acquiert la noblesse. Donc cette famille, à partir de là, se met à avoir de très grandes ambitions. La mère de Jean Déidé achète un hôtel particulier rue du Canot et fait construire un très grand hôtel dont on peut voir aujourd'hui encore le portail qui est très majestueux. Et puis Jean Déidé se lance dans la construction, l'aménagement de cette chapelle pour avoir un lieu, un caveau pour faire enterrer les siens. Et puis évidemment, puisqu'il voit les choses en grand, ce lieu se doit d'être un chef-d'œuvre artistique dans lequel il va solliciter les plus grands artistes de son temps.
Et en parlant de ces grands artistes de son temps, on en a quelques-uns, Pierre Puget, Christophe Verrier, qui sont-ils ?
Alors tout à fait, incontestablement, c'est vraiment un levier de prestige social et de qualité esthétique, mais ça va ensemble. Le grand chef d'orchestre du projet, c'est effectivement Pierre Puget, qui est le célèbre artiste sculpteur marseillais, qui travaille pour Louis XIV, qui réalise parmi les plus beaux marbres des jardins de Versailles, qu'on peut voir aujourd'hui encore au Louvre, qui travaille également à Gênes. Il travaille entre la Provence et Gênes. À cette époque-là, il travaille pour les grandes familles génoises. Mais ce n'est pas seulement un sculpteur, c'est aussi un artiste un peu visionnaire, c'est-à-dire qu'il est capable, au-delà d'une œuvre singulière, il est capable de concevoir un grand décor et de faire travailler un grand nombre d'artistes pour mettre en mouvement tous ses savoir-faire et pour réaliser tous les différents éléments peints ou sculptés qui vont venir occuper leur place dans les trois murs de cette chapelle funéraire. Alors d'autre part, on a aussi Nicolas Mignard qui intervient, grand peintre avignonnais qui à cette époque et pour les 10 dernières années de sa carrière est à Paris, également au service de Louis XIV. Donc il réalise un grand tableau qui représente le songe de Saint-Joseph. C'est des tableaux qui font plus de 3 mètres de haut. Et Giovanni Battista Carlone qui est un peintre génois également, c'est un ami de Puget, ils ont vraiment l'habitude de collaborer ensemble, qui réalise une très grande fuite en Égypte. Et enfin Christophe Verrier, qui est en famille avec Puget, c'est son collaborateur préféré, et c'est un très grand sculpteur et surtout un très grand portraitiste qui sait saisir toute l'acuité d'une physionomie et d'une psychologie et qui a su réaliser ces marbres qui représentent Jean Déidé et son épouse 300 ans plus tard.
Vous parliez d'un artiste génois, est-ce que la chapelle et les marbres qui sont présentés reflètent un petit peu le fait que Montpellier est un carrefour où les artistes italiens s'y arrêtent ?
Alors écoutez, ça va peut-être être décevant ce que je vais dire, mais en fait non. Clairement, il faut plutôt se représenter les choses à l'envers. C'est plutôt l'ambition extraordinaire de Déidé qui fait venir l'Italie à Montpellier. C'est-à-dire qu'en fait, cette chapelle, on a du mal à s'en rendre compte aujourd'hui, mais c'était un véritable ovni, en fait, dans la cathédrale. On voit encore l'espace aujourd'hui, tout le long sur les bords de la nef, il y a des chapelles. Toutes ces chapelles étaient attribuées à des familles. Mais la plupart des familles se faisaient faire des décors de pierre, avec des hôtels en bois, avec des toiles faites par des peintres assez modestes. Lui, Jean Déidé, tout est en marbre, tout brille, tout est lustré. Donc il faut au contraire imaginer un espace incroyable. C'est en fait une enclave d'art génois au cœur du Languedoc. Et c'est justement le propre de ces artistes génois qui avaient non seulement un talent artistique, mais qui avaient aussi un extraordinaire réseau de projection de leur propre production aux quatre coins de la Méditerranée et qui vendaient vraiment en kit, en pièces détachées, les différents éléments de ce décor qui étaient ensuite remontés. Alors ici à Montpellier, mais par exemple, si vous allez à Carpentras, par exemple, dans la cathédrale, vous verrez exactement de la même manière une chapelle qui est entièrement composée de marbre fait par des Génois, commandité par un prélat génois d'ailleurs. Et puis après, ça peut vous conduire jusqu'en Espagne, dans toute l'Italie, et puis ensuite même jusqu'à Versailles.
L'exposition, on peut revenir un petit peu sur la scénographie, elle est sur deux sites. Comment ça s'est organisé ?
Alors l'idée, c'était vraiment que le musée mette en lumière certains éléments, les tableaux, les portraits sculptés, et puis ensuite qu'on invite les visiteurs à venir découvrir ce que le musée ne présente pas, c'est-à-dire la beauté des marbres colorés qui composent les décors, l'autel, la balustrade en marbre noir. Donc toute l'idée, c'était vraiment de faire une exposition sur deux sites en vraiment attirant l'attention sur ce décor qui est démembré, en fait, finalement, qui est sur plusieurs sites, mais que l'on peut réussir, grâce à cette exposition, à comprendre dans sa cohérence.
Donc ici, pour finir, c'est un moyen de valoriser à la fois les collections du musée et le patrimoine local.
Tout à fait, le patrimoine des églises, qui est souvent peu connu, mais qui est en fait d'une très très grande qualité artistique, et c'est une très bonne chose. En fait, il faut vraiment avoir en tête que les églises sont finalement des sortes de musées de proximité qu'il faut visiter, dans lesquels on peut voir des choses tout à fait extraordinaires.
L'exposition de marbre blanc et de couleur reconstitue un décor baroque effacé par l'histoire. C'est à découvrir au musée Fabre et à la cathédrale Saint-Pierre jusqu'au 13 mars 2020. Le Mac de Clapaz, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Pierre-Jean pour la réalisation. La semaine prochaine, nous parlerons de la nouvelle exposition du MOCO et nous irons découvrir l'édition 2019 de Cœur de Ville en Lumière. En attendant, vous pouvez nous écouter en rediffusion dans les matinales, le samedi à 7h30 ou en direct chaque mardi à 17h. N'oubliez pas nos web radios 100% musique locale, Clapas Rock, Clapas Jazz, Clapas Chanson et Clapas Groove. Restez à l'écoute et à bientôt sur Clapas. Bye bye!